remercier le Seigneur pour une grande réponse à notre prière avec le retour d'Alexander, pour lequel nous avons beaucoup prié. Et il est là ce matin et j'espère qu'il sera là dans les dimanches à suivre aussi. Je vais prêcher ce matin sur le sujet l'Esprit de Dieu et l'eau. Il y a un principe quand on étudie la Bible qui s'appelle la première mention. C'est-à-dire que la première fois qu'un mot est utilisé dans la Bible, que ce soit le nom d'une personne ou d'un événement ou d'une chose, ça a une grande importance et ça dénote son caractère à travers toute la Bible. Et ceci est vrai quand il s'agit de l'esprit et de l'eau. Et la première mention, c'est dans le deuxième verset de la Bible. Je vais demander maintenant à Gabriel de lire ce verset.
Donc ce verset dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Ici, on voit que quelque chose est arrivé. Il y avait d'abord la création magnifique sortant de la bouche de Dieu. Et puis, verset 2, on trouve la terre informée, vide, tohu-bohu en hébreu. Et nous l'utilisons aussi aujourd'hui en France. Tohu-bohu, ça veut dire que tout est en confusion, tout est sens dessus-dessous. Alors, et puis on voit les ténèbres. Alors, tohu-bohu et les ténèbres ne dénotent pas Dieu du tout. Ça montre que quelque chose, une catastrophe est arrivée. Et maintenant, on voit l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et pourquoi? Pour faire revivre ce qui était destiné ou ce qui était mort. Et tout ceci est un symbole de notre salut. Nous étions morts, dit la Bible, morts dans nos péchés, dans nos iniquités. Mais quand on accepte le Seigneur, il y a la vie qui vient. C'est l'Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle tellement des péchés sexuels. On est constamment confronté par cela, par la télévision, même dans les annonces, quelquefois. Vous savez, il est arrivé à un point maintenant que quand quelqu'un dit « Oh, il a péché », ça veut dire qu'il avait donc un péché sexuel, comme s'il n'y avait pas d'autres péchés. Mais vous savez que le plus grand péché, c'est l'orgueil. C'est ça qui empêche les gens d'accepter le Seigneur, c'est l'orgueil. Mais en plus de l'orgueil, vous avez également la jalousie, l'amour de l'argent, la haine, la rétribution, la vengeance. Toutes ces choses-là sont présentes constamment, l'amour de l'argent surtout. Alors tout ceci sont aussi des péchés. Et tout le monde est pécheur. Et quelques-uns qui pensent que parce qu'ils ne sont pas coupables des péchés sexuels, que voilà, ils sont assez bons pour aller au ciel, mais ce n'est pas vrai. Ils sont également pécheurs. J'aimerais que vous regardiez dans la Bible, Psaume 113, verset 7. Il va le lire maintenant.
Psaume chapitre 113, verset 7. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent.
De la poussière, il retire. Et du fumier, voilà, ça c'est une description de la grâce de Dieu. La grâce prend quelqu'un qui est dans le fumier, qui est dans la poussière, il élève pour qu'il soit assis avec des grands dans le ciel. Voilà ce que c'est la grâce de Dieu. Mais aussi, c'est le tableau de l'homme. Dans la poussière, dans le fumier, mais Dieu le change. Il le change totalement. Il fait de lui un saint. Il fait de lui un homme et une femme de Dieu. Voilà ce qui se passe. Et cette idée de l'esprit et de l'eau se trouve également dans le Nouveau Testament. Nous allons maintenant lire en Jean chapitre 4. Mais avant de lire, laissez-moi vous dire ceci. C'est qu'il s'agit de la femme samaritaine qui est allée le matin pour prendre de l'eau, ou à midi, pour prendre de l'eau. Et Jésus était assis sur le puits. Les disciples étaient ailleurs pour acheter des vivres. Lui, il était fatigué, il avait soif. Il a demandé à cette femme de lui donner de l'eau. Elle l'a fait, mais il a dit, « Si tu savais qui te parle, tu lui aurais demandé de l'eau, tu aurais donné de l'eau de la vie éternelle. » J'aimerais que Gabriel lise ce passage maintenant.
Jean chapitre 4, versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »
Oui, elle voulait avoir cette eau pour ne pas avoir besoin de venir tout le temps au puits parce que c'était une corvée qu'elle n'aimait pas faire du tout. Alors, elle voulait avoir une satisfaction totale pour ne pas être dérangée. Vous savez, quand Christ donne de l'eau de la vie, il donne une vraie satisfaction. Elle n'a pas compris cela. Elle a pensé à l'eau du puits. Mais Christ a parlé de l'eau de la vie éternelle. Et si on demande, on est pleinement satisfait. J'aimerais qu'on lise maintenant Psaume 110, verset 7.
Psaume chapitre 110, verset 7, il est écrit, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. »
Il boit au torrent pendant sa marche. C'est-à-dire que la satisfaction est telle qu'on boit au torrent pendant qu'on continue notre marche. Quand on est fatigué, on boit. On boit, et voilà, c'est l'eau qui représente le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en nous, et quand on est fatigué, on peut se tourner vers lui pour nous relever. Quand on est triste, on doit boire au torrent. Et ça, et continuer la marche. Et quand on est découragé, on doit boire au torrent et continuer la marche. C'est ça que le verset dit. On ne s'arrête pas, on continue à marcher malgré tout, parce qu'on est soutenu par cette eau vive qui est le Saint-Esprit qui est en nous. Et ça aussi, ça marche quand on reçoit des mauvaises nouvelles. J'ai remarqué combien de fois, et ceci qui me fait craindre, quand il y a un nouveau converti et qu'il lui arrive quelque chose d'horrible, une mauvaise nouvelle qui est au plein visage. Alors, j'ai dit, oh Seigneur, garde-le, parce que combien de fois, quand quelqu'un reçoit cette mauvaise nouvelle, au lieu de boire au torrent, au lieu de dire, Seigneur, aide-moi maintenant, il blâme le Seigneur, il s'arrête de venir à l'église, il ne lise plus la Bible, il se tourne le dos à Dieu. Et quelquefois, ça dure des années. J'ai quelqu'un dans la famille de ma femme, ça a duré des années, parce que ça n'a pas marché comme il a voulu. Vous savez, on perd du temps comme ça. On doit boire au torrent, et ça relève. Vous savez, dans la dernière guerre mondiale, il y avait cette femme de l'Écosse qui avait quatre fils. Et tous les quatre étaient appelés à aller à la guerre. Et la coutume dans le pays là, c'était quand quelqu'un tombait, il y avait un officier qui est venu à la maison, frapper à la porte et porter la mauvaise nouvelle que son fils est mort. Alors, elle, un jour, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Elle y est allée et c'était un capitaine de l'armée. Elle a dit, lequel? Il a dit, Mame, madame, tous les quatre. Elle a dit, oh Seigneur, je t'aime, tu es à moi. Et je continue. Elle a bu tout de suite au torrent. Elle a pu continuer. Elle ne s'est pas arrêtée dans sa marche. On boit au torrent dans la marche et on continue avec le Seigneur. Mais quelquefois, ça arrive, c'est encore pire que cela. C'est une attaque. C'est une attaque à notre personne. Ce que je vous raconte maintenant est arrivé il y a quelques semaines. Je parle du pasteur de l'église où je suis membre aux États-Unis. Je savais d'après les coups de téléphone qu'il était tourmenté par quelque chose et ça a augmenté de plus en plus. Finalement, il était question de quelqu'un qui allait venir lui parler, probablement de le reprocher de quelque chose de son passé et peut-être pour lui dire « Ou tu me payes ou je le révèle. » Je ne sais pas, je n'ai aucune idée, mais je sais que c'était une attaque terrible. C'était le mercredi soir quand il y avait la réunion de prière. Tout le monde qui était là, présent, le regardait, il était triste. Il a dit « Priez pour moi, parce que demain je dois faire face à cette attaque. » Alors, finalement, il n'en pouvait plus. Il s'est tourné, il y avait un fauteuil. Il s'est assis dans le fauteuil et on m'a dit qu'il a pleuré, il a ensangloté devant tout le monde. Et les gens se sont levés, tous, ils sont venus devant, sont mis à genoux, ils ont prié pour lui, pour qu'il puisse continuer sa marche malgré l'attaque. Et dimanche suivant, il était derrière le pupitre avec la joie de Christ. Il a prêché. Je ne sais pas comment la chose s'est arrangée, je n'ai aucun détail, seulement je sais qu'il a bu au torrent pendant la marche. Est-ce que vous avez l'habitude de boire au torrent pendant la marche? De dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je compte sur ta force pour me relever, pour me donner le courage de faire encore un autre pas en avant pour toi. Ça, c'est ce que ça veut dire de marcher avec le Seigneur. Et puis, un autre verset se trouve dans le chapitre 7 de Jean, où on trouve l'eau et l'esprit de nouveau. Et cette fois-ci, il faut savoir le contexte, c'est que c'était un jour de fête. Les Juifs, comme vous le savez, avaient trois fêtes par an où ils doivent se rendre à Jérusalem. Tout Juif doit se rendre à Jérusalem. Ils avaient une fête au printemps pour les prémices et deux fêtes en automne. Celle-ci, c'était la fête du printemps. Et Jésus est allé et il se trouvait dans le temple. Il y avait un moment dans cette fête du printemps, le dernier jour, il y avait un moment où il y avait un silence de mort. Il y avait des milliers de personnes dehors, le temple était plein. Et vous savez que Christ avait une voix extraordinairement forte. Il pouvait prêcher à 5000 personnes dehors sans microphone. Donc imaginez la scène quand Christ se lève Dans le temple, le jour de fête, le dernier jour, lisez-le, 37.
Verset 37 du chapitre 7 de Jean, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. »
Il crie au milieu de ce silence, il crie de venir à lui pour avoir la vie éternelle, de boire de la fontaine de la vie. Et il a dit, ajouter quelque chose d'autre qui n'existait pas dans le chapitre 4. Là, j'ai parlé de ce ruisseau-là qui coulait, mais maintenant, il ne parle pas d'un ruisseau, il parle des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive qui jaillissent à nous. Des fleuves d'eau vive qui coulent de nous si on vient à lui. On ne voit pas beaucoup de gens qui ont des fleuves d'eau vive qui coulent maintenant. La vie est telle que tout le monde est mouvementé. La vie est tellement rapide maintenant, on n'a pas le temps de s'arrêter. Et c'est rare de trouver quelqu'un qui a des fleuves d'eau vive qui coulent de lui. Mais ça existe. Ici et là, il y a quelqu'un. On m'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait une dame dans son église qui était justement remplie et d'elle coulaient des fleuves d'eau vive. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais entendu. Il a dit que quand elle entrait dans la pièce, dans l'église, là où il y avait des gens, tout le monde sentait la présence de Dieu immédiatement. C'est qu'elle porte avec elle le parfum de Christ. Il a dit une fois, nous étions tous à genoux et nous étions en train de prier et on n'entendait aucun bruit. Elle est entrée sans bruit du tout et il a dit, mes yeux étaient fermés et j'ai senti la présence de Dieu. Je dis, elle doit être dans la pièce. Et effectivement, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que Dieu veut que nous soyons. Des hommes et des femmes enflammés, avec des fleuves d'eau vive qui coulent de nous. Il y avait cet homme, ce missionnaire qui travaillait en Chine. Il avait des maux de l'estomac terribles. Il est allé voir le docteur. Le docteur l'a ouvert. Il a regardé et puis il s'est tourné vers, c'était en Chine, il s'est tourné vers l'infirmière. Il a dit, cet homme est mort. Cet homme est mort. Non, elle dit, il vit encore, oui, mais je veux dire. Il a dit, on l'a ouvert, mais on ne va pas le fermer. C'est pas la peine. Mettez un drap sur lui, on va l'enterrer au matin. Et le matin, ils sont venus et il a dit, enterre le cadavre là. Alors, elle a pris le drap, elle a enlevé le drap et là, il y avait le missionnaire qui le regardait en face. Elle a crié, elle a dit, mais il vit encore. Non, il n'est pas possible. Oui, oui. Il regarde, il a dit, OK, je ne sais pas quoi faire. Il est mort en réalité, il est mort, mais bon. Ce que je vais faire, ses intestins ne tiennent pas en place. Donnez-moi un fil de fer. Avec des fils de fer, il a enveloppé les intestins et les accrochés à ses côtes. Et puis, ils ont fermé la plaie. Et dans quelques jours, il se levait, il quittait l'hôpital. Il a eu son ministère pendant un ou deux ans, je ne me rappelle plus. Et encore une fois, il était tellement malade qu'on l'a amené à l'hôpital. Et le docteur l'a ouvert, un autre docteur, bien sûr. Il a regardé. Il a dit, cet homme est mort. Il ne peut pas vivre, ce n'est pas possible, il est mort. Et encore, il dit, non, il n'est pas mort, encore. Oh là là, il a dit, j'ai jamais vu une chose comme ça. Il a dit, bon, je vais faire ce que je peux, et puis je vais attacher encore mieux. Il a dit, j'ai jamais vu une chose pareille. Jamais vu une chose pareille. Et sa vie est venue ici, vivante, oui. Bon, je vais le coudre, il va mourir quand même, hein, tout de suite. Alors il a fini. Quelques jours après, il se lève, il quitte l'hôpital. Et c'est après sa deuxième opération que je l'ai rencontré. C'était en Amérique ce qu'on appelait dans les années 50 « round robin ». Ça veut dire que 5, 6, 7 églises qui croient la même chose, baptistes, tout ça, décident dans la région, s'il y en a 7 comme ça, chaque église appelle un missionnaire. Comme ça, ils ont 7 églises, 7 missionnaires, 7 églises. Et le soir, chaque missionnaire change de place. Comme ça, pour que chaque missionnaire soit dans toutes les 7 églises. L'après-midi, les missionnaires se réunissaient tous ensemble pour répondre aux questions des membres de l'église. Et ça aussi, ça changeait chaque jour. Alors, le premier jour, ma femme et moi étaient invités par une des 7 églises. Alors, je suis arrivé, j'ai commencé à serrer la main des missionnaires parce que on était ensemble pour la semaine. Et puis, il y avait cet homme. Il s'approche de moi. Il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Et puis, il est parti. Il n'a pas dit bonjour, il n'a pas dit son nom, ni rien. Alors je dis, après, ça m'a touché. Alors j'ai demandé à un autre missionnaire, mais il dit, le missionnaire là-bas, là, comment s'appelle-t-il? Ah, mais ça, c'est le célèbre missionnaire. Oui, mais moi, je ne le connais. Vous ne connaissez pas missionnaire Ray? Non. Oh, ben alors, ça c'est dit. Missionnaire Ray était tellement célèbre qu'il a quitté sa mission, China Inland Mission, la mission intérieure de la Chine. Et il était à l'appel de toutes les missions de l'Orient. Et tous pouvaient lui demander de l'aide. Alors, les questions commençaient à venir. Et la première question, j'ai dit, voilà, j'ai passé 7 ans en Europe, j'avais plus ou moins les réponses à toutes les questions. Alors, j'ai répondu à la question. Et puis, le pasteur de cette église a tourné vers missionnaire Ray. Il dit, et qu'est-ce que vous dites? Alors, il a donné une explication 3 fois plus profonde que la mienne. Ah, tiens. Alors, après, il y avait une autre question plus tard. Voilà. Et j'ai donné la réponse. Il a dit, merci. Et missionnaire Ray, alors encore 3 fois plus profonde. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il a, cet homme? Je ne savais pas qu'il avait des fleuves d'eau vive qui coulaient de lui. Des fleuves d'eau vive. Alors, il a trouvé un ombre, c'était moi. Là où missionnaire Ray était, moi j'étais à côté. J'ai voulu que tout ce qu'il avait tombe sur moi, d'une manière ou d'une autre. Alors, ma femme et moi, on demandait qu'il consacre une soirée tard. Alors, il a expliqué la Bible comme jamais. J'avais l'impression d'être un nouveau-né en train d'apprendre la Bible pour la première fois. Il a ouvert et des fleuves ont coulé. J'ai appris par la suite, il me l'a dit, j'ai voulu être comme Moïse et faire sortir le peuple d'Égypte, gagner des âmes. Mais le Seigneur a dit, non, tu seras Josué, qui va les amener dans le pays promis. Alors, il a pris le temps pour chacun, pour qu'il soit délivré du péché, qu'il soit rempli de l'Esprit et que de lui puissent couler des fleuves d'eau vive. Voilà l'homme avec qui j'avais affaire. Ça m'a touché profondément. Et je me suis rendu compte combien de gens sont comme ça, remplis de l'Esprit. On n'a pas le temps. Avec toutes les inventions, la radio, la télévision, maintenant, cette petite chose-là, le portable, ce petit diable qu'on a dans la main, qui prend toutes les minutes libres que la personne a, pour qu'on n'ait jamais un moment libre, ni dans le métro, ni ailleurs, parce qu'on veut consulter le portable, la télévision, autre chose, cinéma. Vous savez, il y a en Amérique une montagne qui s'appelle Pikes Peak. C'est la plus haute montagne des États-Unis. Alors, tous ceux qui vont dans l'Ouest aiment grimper cette montagne. Mais elle est haute, hein? Et quand on grimpe le quart du chemin, il y a un hôtel. Alors là, il y a un grand restaurant avec des fenêtres qui donnent une vue excellente sur la vallée. Et les gens, il y a de bonne nourriture. Quand ils arrivent là, ouf! Alors, et puis, après quelques minutes, ils commencent à fraterniser avec les autres. Bonne communion, on est toujours bien ensemble. Il y avait tout ça. Et puis, après un certain temps, ils sortent. Et quand ils sortent, il y a quelqu'un, souvent, qui descend juste à ce moment-là. Et ils disent, « Ah, vous montez maintenant ?»« Non, je crois que nous avons assez vu. On va descendre maintenant. » Alors, ils disent qu'il n'y a que 10% qui continuent. 90% restent à l'hôtel. Ne vont pas plus haut. Cet hôtel, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Où tout le monde est heureux, ensemble, on chante des cantiques, on ne va pas plus loin. Ça ressemble à toutes les églises. On est content tel qu'on est à l'hôtel. On n'a pas besoin de monter plus haut. Mais vous savez, ceux qui montent plus haut et qui arrivent au sommet sont très peu nombreux. Ils disent que cela, c'est la gloire. C'est la vue de toute la chaîne. C'est la vue de l'autre côté de la montagne. C'est tout. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vont là-bas. Et vous me dites, mais qu'est-ce qui manque alors? Si je laisse tout mon péché, si j'obéis au Seigneur de faire sa volonté, qu'est-ce qui me manque? Je vais vous dire ce qui manque. Il manque du temps passé seul avec le Seigneur. On ne peut pas avoir les fleuves d'eau vive sans passer du temps avec Christ. D'être avec lui le matin, dans le silence, de prier. Vous savez, quand il y avait le tabernacle, il y avait Moïse et Josué dedans. Et il y avait la présence de Dieu dans le tabernacle. Et Moïse est sorti et Josué est resté dedans. Alors on se demandait, mais pourquoi? Parce qu'il voulait se baigner dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes jamais baigné dans la présence de Dieu? De rester avec lui assez longtemps pour que ce fleuve commence à jaillir en vous, que vous soyez une bénédiction pour les autres. Voilà le message de l'Esprit et de l'eau. Mais juste avant de finir, j'aimerais vous dire qu'il y a une invitation. Vous savez que le livre de l'Apocalypse été donné par un ange de Dieu. Mais quand il arrive à la fin du livre, je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, c'est le Seigneur lui-même qui arrive et qui dit à Jean, écris ceci. Alors je vais demander qu'on lise cela. En Apocalypse 22.
Apocalypse chapitre 22, versets 16 et 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
C'est le Seigneur lui-même qui donne l'invitation pour la vie éternelle. Il dit, venez, l'épouse dit, viens. L'esprit dit, viens, pour prendre l'eau. Et là, vous avez l'eau et l'esprit de nouveau. Et cette fois-ci, c'est Jésus-Christ lui-même qui tend la main et qui dit, prends ma main, je te donne la vie. Je te donne l'eau de la vie. On dit, comment le Seigneur peut-il condamner quelqu'un en enfer? Comment peut-il le faire? La réponse est simple. Il ne condamne personne. Ceux qui vont en enfer se condamnent eux-mêmes. Quand le Seigneur lui-même, pas un ange, mais le Seigneur lui-même, dit « Viens, prends l'eau de la vie, prends ma main. Prends ma main et je te donne la vie éternelle. Tu vas t'asseoir avec les grands au ciel. » Et que la personne répond « Non, ça ne m'intéresse pas. » La personne se condamne elle-même pour l'éternité en enfer. Parce qu'il rejette l'eau de la vie qui coule librement pour celui qui veut. Venez et boire, dit le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, je te demande maintenant que s'il y a quelqu'un ici dans cet auditoire qui ne te connaît pas, qui s'examine son cœur, qui se rend compte que le Seigneur est là, avec l'eau de la vie, avec l'éternité à offrir, une éternité dans le ciel. Ô Seigneur, je te prie que tu touches quelqu'un et que cette personne vienne à toi et soit sauvée. Et maintenant, pendant que nous sommes dans une attitude de prière, est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui n'est pas encore dans le Seigneur, mais vous ne voulez pas aller en enfer? Vous ne voulez pas passer l'éternité dans les ténèbres éternelles. Vous voulez être avec le Seigneur. Vous voulez être avec ceux qui, avec des grands d'autrefois. Et ce matin, vous dites, Seigneur, sauve-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça? Lève la main. S'il y a quelqu'un qui dit oui, ce matin, je veux être sauvé. Je veux avoir cette vie éternelle dans mon cœur, dans mon âme. Levez votre main, baissez-la. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? J'espère que c'est vrai qu'il n'y a personne qui a besoin. Oui, je crois avoir vu une main. Alors, après la réunion, si c'est vrai, venez me voir et on va parler ensemble, on va prier ensemble. Et maintenant, Seigneur, bénis-le. Bénis ce message. Et Seigneur, que de plus en plus, il y ait des âmes qui se tournent vers toi et qu'on se réveille, que l'Église se réveille. Que nous soyons des hommes et des femmes avec des fleuves d'eau vive qui coulent de nous. Que nous soyons une bénédiction partout où nous passons. Seigneur, aide-nous à être ce que tu veux de nous, car nous te le demandons au nom de Christ et pour sa gloire. Amen.